Il est 8h.
C'est une pathologie infectieuse, donc elle flambe. L'augmentation n'est pas souvent mathématique, mais exponentielle. Vous ne maîtrisez plus rien du tout, le virus se multiplie.
Une épidémie qui semble incontrôlable à Roubaix et Tourcoing, 4 à 5 fois plus de contamination qu'ailleurs en France. Reportage dans le Nord, alors que le Premier ministre doit faire des annonces sur le plan sanitaire aujourd'hui. L'hommage de la nation à celui qui est, selon Emmanuel Macron, le visage de la liberté. Samuel Paty, inspirant pour de nombreux professeurs, ils espèrent un retour en grâce de leur métier. Les imams formés en France, nous verrons comment cela se passe à Marseille. Difficile de trouver les candidats qui accepte toutes les conditions, notamment matérielles. Dans ce journal, le documentaire Francesco et la petite révolution esquissée par le pape. Les personnes homosexuelles ont droit à une famille et d'être couvertes légalement, dit-il. Et puis un bulletin de vote dans une boîte aux lettres plutôt qu'une urne. Y a-t-il risque de fraude ? Reportage européen au cœur de la machine électorale américaine.
Après les hommages, comment mieux enseigner les valeurs de la République, le vivre ensemble, la laïcité à l'école ? Comment mieux protéger aussi les enseignants ? Les réponses du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer face à Sonia Mabrouk, c'est dans un quart d'heure. Très bon début de journée avec Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est donc à tour de rôle. Après Emmanuel Macron, après Olivier Véran, c'est le Premier ministre qui va annoncer les mauvaises nouvelles du jour. 17h, conférence de presse. On le sait, plusieurs départements vont basculer en zone d'alerte maximale.
Le Nord est sous pression. La métropole lilloise est déjà sous couvre-feu. Et une ville en particulier bat tous les records. Roubaix, qui est aussi l'une des plus pauvres de France.
Reportage de Lionel Gougelot auprès de ceux qui sont en première ligne dans cette ville.
Je vois les chiffres qui montent là en ce moment. On vient de passer le 1000 cas pour 100 000 habitants, ça fait peur. Hein. On est dans l'épidémie là, on y est.
Depuis quelques jours, chez SOS Médecins à Roubaix, le docteur Platel constate 25% de patients positifs, un chiffre multiplié par 5 en un mois.
Les gens dans la force de l'âge, les gens qui travaillent, les gens qui vivent, les actifs finalement, c'est eux qui, à mon sens, sont la catégorie la plus touchée.
Une épidémie qui frappe une ville fragile, des quartiers pauvres et des logements bien souvent trop petits, ce qui favorise la circulation du virus dans les familles, selon Jean-Philippe Dangouane, adjoint au maire chargé de la santé.
Pour moi, ça reste principalement lié à la jeunesse de la population, à la typologie de la famille roubaixienne, et puis également, après c'est une pathologie infectieuse, donc elle flambe, et l'augmentation n'est pas souvent mathématique, mais exponentielle. C'est-à-dire qu'après, une fois que les chiffres sont élevés, vous ne maîtrisez plus rien du tout, le virus se multiplie.
Mais dans certaines familles, le docteur Platel observe aussi des comportements moins vigilants face au virus.
On voit beaucoup de gens avec des masques qui ont été utilisés, réutilisés, réutilisés, et voilà. Donc tout ça, mis bout à bout, fait que probablement l'épidémie s'étend.
Alors pour enrayer l'explosion de la maladie, la ville va lancer des ambassadeurs de prévention qui iront dans les quartiers pour rappeler le respect des gestes barrières. Roubaix, Lionel Gougelot, Europe 1.
On a recensé hier 166 morts du Covid au niveau national. On attend par ailleurs une mise à jour de l'application Stop Covid pour ce soir. Elle s'appellera désormais Tous Anti-Covid. La Marseillaise par l'orchestre à cordes de la Garde républicaine, la Légion d'honneur, le cadre solennel de la cour de la Sorbonne et des dizaines d'élus présents. C'est bien un hommage national que Samuel Paty a reçu hier soir.
Nous continuerons, professeur, nous continuerons ce combat sur la liberté, a déclaré Emmanuel Macron, saluant en même temps tous les enseignants. Des mots que les enseignants venus assister à la cérémonie ont bien retenus.
Comme Fatima, qui enseigne l'histoire géo dans un collège parisien.
Je trouve que Samuel Paty avait toute sa place à la Sorbonne. Emmanuel Macron a fait en sorte de remettre le professeur, l'enseignant, à la place qu'il a perdue. C'est un métier qui s'est précarisé, désolidarisé. Je crois que ce professeur qui a été très très seul, c'est aussi un peu la défaite des professeurs, quoi. On a perdu du terrain. Vous dites quelque chose, vous montrez quelque chose, on ne croit pas à la parole du professeur, on la conteste. Quelle est la place qu'on attribue aux parents ? Quelle est la place qu'on attribue aux réseaux sociaux ? Je pense qu'il doit être revalorisé dans tous les sens.
Le témoignage recueilli par Caroline Baudry.
Et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, sera donc face à Sonia Mabrouk juste après le journal.
Du côté de l'enquête, hier soir, les 7 suspects présentés au juge antiterroriste ont été mis en examen, y compris les 2 collégiens de 14 et 15 ans, poursuivis pour complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste.
Parmi tous les chantiers qui doivent être menés pour réparer la société et pour que cet acte ne puisse plus se reproduire, la question de la formation des imams, formation en France, se pose.
Des instituts sont donc en train de voir le jour au Mureaux, à Lille, ainsi qu'à Marseille, où on va le voir avec ce reportage de Nathalie Chevance. Même quand le cadre est posé, pas facile de le faire fonctionner.
Dans les locaux de la mosquée Al-Taqwa, les salles de classe toutes neuves n'ont pas encore accueilli les premiers élèves candidats au titre d'imam. Ils ne sont que 6 pour le moment à remplir tous les critères. Être francophone, résider en France, avoir le bac, être âgé entre 18 et 45 ans et surtout accepter une formation sur 3 ans à temps complet sans contrepartie financière. C'est là le problème, alors qu'il y a urgence, relève Amar Tazir, vice-président de l'Association culturelle islamique de Marseille.
Il faut trouver les candidats qui acceptent les conditions. C'est très compliqué parce que la formation c'est du 3 ans, c'est pas un mois ou deux mois. Le message qu'on envoie aujourd'hui à la communauté musulmane qui se dépêche de s'organiser et de participer à la formation des imams. Nous, on conseille les jeunes de venir après 3 ans, il sera imam formé avec un diplôme agréé et un statut imam. Ici, c'est très demandé, donc le travail, ça sera sûr. C'est très important aussi d'avoir des imams formés francophones parce qu'on ne sait pas qui c'est qui écrit sur l'internet. Est-ce que c'est un imam? Est-ce que c'est un savant? Est-ce que c'est un voyou? C'est ça le danger.
D'où la nécessité de former des imams. La plupart qui prêchent ici dans les mosquées n'ont pas de statut et ne parlent pas français. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Il est 8h06 sur Europe 1. Une révolution au sein de l'Église catholique. Pour la première fois, le pape François se dit ouvertement favorable à l'union civile pour les homosexuels.
Oui, Blandine Hugonnet, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on apprend cette déclaration à l'occasion de la fête du cinéma en Italie.
Et oui, dans un documentaire présenté hier ici à Rome, on entend le pape François défendre les droits des homosexuels, le droit d'avoir une famille et surtout le droit à un statut légal pour les couples gays. On ne doit pas rejeter quelqu'un ou lui rendre la vie impossible parce qu'il est homosexuel, explique le pape en espagnol dans ce film.
Les personnes homosexuelles ont le droit de faire partie d'une famille. Ils sont enfants de Dieu, ils ont le droit à une famille. Ce que nous devons faire, c'est une loi sur l'union civile. Ils ont le droit d'être protégés légalement.
Alors ces propos n'ont pas de valeur officielle au Vatican et on ne parle pas ici de mariage gay, le souverain pontife reste fermement opposé, mais c'est tout de même un signe d'ouverture inédit. Défendre l'union civile entre personnes de même sexe, l'équivalent du Pax en France, eh bien c'est une première pour un chef de l'Église catholique. Jamais le pape François n'avait pris position aussi explicitement en faveur d'un cadre légal pour les couples homosexuels.
Merci Blandine Hugonnet en ligne de Rome pour Europe 1. En France, 10 000 foyers étaient toujours sans électricité hier soir à 22h après le passage de la tempête Barbara et ses rafales enregistrées jusqu'à 200 km/h sur le sud du pays. Le courant est rétabli pour plus de 60 000 logements.
Nous partons aux États-Unis dans un instant avec l'importance du vote par anticipation. Et cette nuit, en soutien à Joe Biden, c'est Barack Obama qui a appelé les électeurs à se mobiliser.
Je m'en fiche des sondages, dit-il.
I don't care about the polls. There were a whole bunch of polls last time.
Il y a eu toute une série de sondages la dernière fois. Ça n'a pas marché parce que tout un tas de gens sont restés à la maison, flemmards et complaisants. Nous allons voir où en est le vote par courrier.
À tout de suite sur Europe 1, il est 8h08.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
Et 8h10, la suite du journal, François Geffrier.
Le deuxième et dernier débat ce soir entre Joe Biden et Donald Trump. Au début de chaque réponse, le micro de celui qui n'a pas la parole sera carrément coupé pendant 2 minutes pour éviter une nouvelle bouillie télévisuelle. Et nous partons tout de suite aux États-Unis. Retrouvez Théo Manval comme tous les jours à 8h.
Bonjour Théo.
Bonjour.
Débat ce soir donc, mais c'est une spécificité très américaine. 31 millions d'électeurs ont déjà fait leur choix en votant par anticipation, souvent d'ailleurs par crainte du coronavirus. Ça représente déjà 1/5 de toute la participation d'il y a 4 ans.
Alors Donald Trump répète que cela va générer une fraude électorale géante. Théo, vous êtes à Madison, capitale du Wisconsin, un état où le vote par courrier est massif.
Oui, et je peux vous dire qu'effectivement, il y a déjà des dizaines de milliers de bulletins reçus par la poste dans la mairie de Madison. On en a 10 fois plus qu'il y a 4 ans, explique Jim Verbeek, le greffier de la ville, dans une salle du conseil municipal complètement remplie de boîtes, elle-même remplie de bulletins.
On a dû embaucher du monde pour les réceptionner. On est à peu près 50. On range les bulletins dans des boîtes en fonction du quartier d'où ils viennent et à l'intérieur, par ordre alphabétique.
Vous l'avez dit, c'est la peur du Covid qui a poussé beaucoup de monde, comme Meghan, à voter à distance pour la première fois. Les démarches sont strictes. Il faut une pièce d'identité avec photo pour récupérer son bulletin, la signature d'un témoin qui certifie que vous l'avez bien rempli dans les règles. Mais face à cet afflux, Donald Trump martèle depuis des semaines que la fraude des démocrates sera massive, toutes les usurpations possibles. Alors comment sont vérifiés ces bulletins? Suivez le guide.
Quand ils arrivent, on les amène dans cette pièce où nos employés vérifient les signatures de l'électeur, de son témoin, les adresses.
On l'entre dans la base de données pour que les gens chez eux puissent voir que leur bulletin est bien arrivé.
Et ensuite, on les transfère dans cette deuxième salle, enfermée dans des boîtes. Dans le Wisconsin, on n'a pas le droit de les dépouiller avant le jour de l'élection. Donc on laisse en permanence deux personnes dans la pièce, on est les seuls à avoir la clé. Il y a des caméras de surveillance, la police est dans le bâtiment, donc c'est plutôt sécurisé.
Quant à savoir si on peut revenir voter une deuxième fois en personne le jour du scrutin, comme l'assure Donald Trump.
Non, parce que le bulletin reçu par la poste est inscrit dans nos registres. Donc on sait si une personne vient voter deux fois.
Même le patron du FBI a répété ces dernières semaines n'avoir aucune preuve d'une fraude coordonnée à l'échelle nationale. La vraie question, en revanche, concerne les délais pour le résultat. Dans certains États, on peut envoyer son bulletin par la poste jusqu'à 3 jours après l'élection. Le temps de les dépouiller, de les compter, on pourrait bien avoir un résultat au soir du 3 novembre qui soit en fait inversé quelques jours ou semaines plus tard.
Théo Manval, tous les jours à 8h. Le football, l'OM perd 1-0 dans le temps additionnel contre l'Olympiakos pour son premier match de groupe de la Ligue des Champions hier soir.
C'était le journal signé François Geffrier. Il est 8h12 sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.